reçu et n'ont pas. Si vous n'avez pas reçu les 21 pages que j'ai fabriquées à partir de ça, et les deux citations de Lacan que j'ai lues la semaine dernière, et bien, il faut absolument que vous m'envoyiez votre adresse de courrier électronique pour que je vous les envoie. Surtout que vous allez avoir plus de la chance, parce que la première version que j'ai envoyée, elle est encore une photographe. Et alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de saisir et mettre en œuvre toutes et puis les corrections et puis vous l'envoyer un peu mieux, mais surtout qu'il y en aura peut-être encore d'autres. Donc, mais je peux vous envoyer, de toute façon, ça vaut surtout pour le dessin, non, c'est à lire. C'est vrai que c'est mieux de l'entendre raconter. Vous avez le cours de la dernière fois qui est accessible à, donc sur la page qui s'appelle Eutopologie. Et là-dedans, si vous cherchez bien dans ce labyrinthe, vous trouverez dans une case marquée MP3, c'est ça, hein? Et en cliquant sur MP3, vous pouvez écouter le cours. Il y a l'enregistrement de la semaine dernière. Il y a quelques autres. Alors, il y a donc le texte qu'il y a aussi sur Internet, d'ailleurs, je pense que je dois vous renvoyer parce que vous pouvez le trouver. Est-ce qu'il est lié au cours
Oui, tout à fait.
Donc vous pouvez même l'avoir en ce qu'on appelle PDF. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gribouiller dessus parce que c'est fixe, c'est rigide, c'est une image, des pages. Mais enfin bon, ça va vous permettre de lire. Bon, alors. Là, j'ai remis au tableau les deux choses les plus amusantes dans cette histoire. Mais de quoi s'agit-il ? Donc, je vous ai parlé de la répétition freudienne et de la seconde opération de causation du sujet dont parle Lacan. Dans le séminaire qui s'appelle Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, il traite de la répétition freudienne comme étant un des quatre concepts, et il traite de ces deux opérateurs qu'il appelle de l'aliénation et de la séparation, ces deux opérations logiques. Alors j'ai fait un texte qui est ça, cette fois c'est pas sur la page de l'autopologie, mais c'est sur la page qui a mon nom. Mais enfin il y a un lien avec l'autopologie. J'ai donné à propos du velle de l'aliénation cet opérateur logique qui s'écrit en logique symbolique comme ça. C'est la négation de l'implication réciproque entre P et U. Parce que cet opérateur est défini et équivalent à la chose suivante, c'est-à-dire à une différence symétrique, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou un truc exclusif entre P et Q, et une implication de Q vers P. Voilà ce que Lacan appelle dans son compte-rendu du séminaire La logique du fantasme une différence morganienne d'aspect qu'un choix forcé rend dissymétrique. Et donc c'est pour ça que moi je continue à appeler ça, comme on l'appelle dans les livres de logique, la différence symétrique. Et vous voyez que Lacan prend soin de ne pas qu'il y ait une altération comme ça de symétrique. Il n'a pas dit une différence symétrique qu'un choix forcé rend dissymétrique. Et ce qu'il appelle une différence morganienne d'aspect, c'est la différence symétrique. Il fait juste une référence à de Morgan pour nous indiquer qu'il s'agit bien, parce que de Morgan a produit deux résultats importants après Boole, dont le principal s'appelle la dualité de Morgan. Donc, différence morganienne d'aspect, bon, ça c'est dans le style de Lacan. Oui.
Pourquoi on n'écrit pas Q implique pas Q?
Vous pouvez, ça dépend combien vous avez de caractères d'écriture dans votre écriture. Non. Si vous avez que celui-là, vous êtes obligé d'inverser les lettres pour écrire la réciproque. Si vous avez les deux caractères, ils sont différents quand même, les deux caractères. Je veux dire, ça c'est un caractère et P implique Q, c'est un caractère et P est impliqué par Q, c'est un caractère. Donc, ça dépend des définitions que vous avez dans votre système d'écriture. Ceci est différent de ceci. Bon. Si vous disposez que de ça, ce qui ne semble pas pour moi, puisque j'utilise celui-là. Mais enfin, c'est selon. Il faut noter la différence entre les deux, de toute façon. Moi, j'introduis la logique. Ces caractères, je les introduis à partir de la négation et du « ou ». Qui est le « ou » inclusif. Donc, je peux vous faire à ce propos, puisque vous me posez la question, une petite remarque. Une petite remarque en général, mais qui présente un intérêt très spécial, si vous y réfléchissez. Je vais vous dire ça comme ça. Il y a des gens qui ont une Quine, comme Quine. Par exemple, vous avez une dame en France qui a une Quine, sûrement, c'est Madame Imbert, Claude Imbert qui a traduit Frege. C'est le chef, Claude Imbert. Elle déteste ce calcul des propositions, ce qu'on appelle le calcul des propositions. Moi, je l'appelle le calcul de la coordination. Parce que c'est le calcul de la coordination des propositions, c'est pour ça qu'on appelle le calcul des propositions, mais on omet dans ce cas-là le fait qu'il s'agit aussi du calcul de la coordination des concepts. Ce qui veut dire qu'en logique, si on se place dans le langage des prédicats du premier ordre, c'est-à-dire la logique des concepts, ce calcul dit des propositions, c'est mal dit parce qu'il fonctionne deux fois et personne s'en aperçoit. Personne s'en aperçoit avant longtemps. Et personne ne le dit. Bon, je ne suis pas le seul à faire cette remarque puisque vous avez le professeur François Rivin qui, dans son livre de logique élémentaire, son enseignement de logique pour les étudiants en philosophie, il a proposé d'appeler ce calcul le calcul des énoncés. Moi, je l'appelle le calcul de la coordination des énoncés. Et ces énoncés peuvent être aussi bien des propositions que des prédicats ou des concepts. Le mot prédicat prévalut plus tard, certainement après Kant, mais c'est le calcul des concepts. C'est le calcul des classes. Alors, on vous fait tout un micmac sur le calcul des relations et des classes qui serait différent du calcul des propositions. Mais finalement, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une structure algébrique qu'on peut présenter à partir d'un système d'écriture que les logiciens et les mathématiciens appellent aussi système formel. Moi, je préfère appeler ça un système d'écriture parce que ce système formel, il l'appelle aussi un langage. Moi, je pense qu'il n'y a pas des langages. Il y a des langues. Dans le langage, il y a des langues. Et puis, il y a du langage. Parce que les gens qui se sont posé la question, par exemple, de savoir si la musique était un langage, Vous avez tout un article de Adorno là-dessus. Il finit par conclure que non, ce qui est quand même assez rude. Hein? Même Messiaen n'était pas dupe des oiseaux. Il est allé écouter au Japon pour écrire ses partitions pour sa femme, qui était pianiste. Vous savez que Messiaen a écrit une œuvre qui s'appelle Les oiseaux, pour piano. Et donc, il est allé en Afrique, au Japon, en Europe, il écoutait dans la campagne des oiseaux, il transcrivait le chant des oiseaux dans l'écriture musicale, qui était la sienne. Et ensuite, il a composé des œuvres pour piano qui s'appellent Les oiseaux. Alors, mais si on n'est pas crétin, comme les gens qui disent un langage, ou si on saucissonnait le langage, il y a des langues, mais il n'y a pas des langages. Il y a du langage, et les langues sont différentes, et dans les langues, vous avez de la parole et de l'écriture. Donc c'est du langage parlé ou du langage écrit, les langues. Puis il se trouve qu'il y a des... Dans le langage, on peut aussi écrire des choses qui ne correspondent pas à une langue parlée. Qui n'a même pas grand-chose à voir avec une langue parlée. C'est toujours... Vous voyez, c'est toujours l'emmerdement qu'on a quand on voit apparaître au tableau ce genre d'écriture, parce que vous vous dites, mais alors comment on dit ça? Comment on vocalise ça? Moi je vous dis ça, c'est P n'est pas impliqué par Q. P est différent de Q. P implique Q implique P. Bon. Mais c'est pas le fait qu'on pouvait le chanter dans toutes les manières, sur tous les airs, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à lire ces formules. C'est propre. Ça. Le fait de le vocaliser, c'est de pouvoir en parler, comme je le fais là, parce que si j'en parle, ça c'est intéressant pour moi. Ça va me permettre de me rendre compte qu'il y a beaucoup de registres dans le langage, même dans la parole, et entre la parole et l'écriture. Donc c'est l'intérêt, c'est que c'est justement des écritures qui sont pas, qui correspondent pas à une langue, c'est pas de la langue. C'est de l'écriture. C'est pour ça que moi je propose d'appeler ça, non pas un langage, des langages, mais des systèmes d'écriture ou un système d'écriture. Il suffirait de s'apercevoir que c'est fait précisément pour être écrit et que ça ne parle pas beaucoup là. Hein? Alors c'est pas parce que Lacan il a dit ça parle que c'est devenu inintéressant des trucs qui parlent, qui se parlent pas. D'ailleurs, en même temps, Lacan disait ce que je préfère, c'est les discours sans parole. Donc ça, c'est du discours sans parole. C'est du langage, mais ce n'est pas un langage. C'est un calcul. Bon. Mais le calcul, ça nous fait déjà passer plutôt du côté de la machine à calcul. Alors, tous ces langages ne sont pas calculables. Il y a des phénomènes de récursivité, de semi-récursivité, et des systèmes d'écriture qui sont non récursifs. On ne peut pas mécaniser. Bon, donc il y a un certain nombre de nuances comme ça. Et donc la musique, c'est du langage, c'est pas un langage. Je sais pas, mais je ne crois pas que Messiaen ait cru que les oiseaux qui chantent, c'était des musiciens. C'était des instrumentalistes, Moi, je crois plutôt qu'il a été dépassé par son désir. Messiaen, il a fait les oiseaux. Il a écrit Les oiseaux. C'est comme œuvre, après avoir écouté Les oiseaux et noté tout ça sur ses cahiers, ça avait des portées. Ça devait être très amusant pour lui. C'est à peu près le genre de choses qu'il faut faire avec ses systèmes d'écriture aussi. Vous voyez, ce que je veux vous montrer ici, c'est que ce jeu des disques troués en quatre étapes, grâce à cette écriture-là, à ce diagramme, ça c'est un mouvement d'objet que j'ai montré la dernière fois en plastique. Je l'ai là, mais je ne vais pas le refaire. C'est de la matière plastique transparente. Je peux le refaire. Si vous voulez le revoir comment ça marche, on va le faire. On va le refaire, mais. Mais ça c'est quelque chose de l'ordre de la géométrie. Ça, c'est un diagramme, c'est déjà plus pareil, c'est un diagramme de la peine, Carole. Et grâce à ça, on peut écrire ce qui se passe là avec les écritures que moi. Et là, moi, j'ai écrit une veille de l'aliénation. Ça, c'est l'aliénation. La première chose à retenir de ce veille de l'aliénation, c'est que Lacan est un génie de la logique. Pour la raison suivante, c'est que ce veille de l'aliénation fonctionne entre le vrai nécessaire et le faux nécessaire, c'est-à-dire entre la vérité logique et le faux logique, entre les tautologies et les antilogies. Et que Lacan, il a, pour son séminaire, il a fabriqué un exemple de cet opérateur d'aliénation qui est fondamental en ce qui concerne la parole, justement, dans le langage, le fait de l'énonciation. Vous tombez avec l'énonciation forcément sous le coup de cette aliénation. C'est ça d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit ça le caractère traumatique. Il y a deux aspects du trauma dans le malentendu des parents. C'est que l'enfant, il s'aperçoit que les parents ne s'entendent pas parler. Et que l'énonciation, en plus, introduit du fait de l'assertion, du fait de ce qu'on appelle la parole, la loi de la parole. Donc cette autorité dont les parents ne se rendent pas bien compte, ça fait trauma, ça fait un trou. On est dans le trou. On assiste bouche bée à la production d'un trou dans lequel on se trouve. Et en plus, on est aliéné dans ce trou. Mais c'est une conséquence, à mon avis, du trauma, cette aliénation. J'aurais dit que cette aliénation, elle fonctionne entre la vérité nécessaire et le faux nécessaire, entre la tautologie et l'antilogie. Et Lacan, lui, il a fabriqué pour ses élèves, pour ses auditeurs, dans le séminaire, en particulier dans le livre des quatre concepts fondamentaux, il a fabriqué un exemple synthétique a priori. Parce que cet aspect entre la tautologie et l'antilogie, c'est un aspect analytique. Ce que ça veut dire, c'est que cette aliénation, elle s'impose à la lettre. Du fait que la vérité en logique classique et le faux en logique classique qui sont la vérité logique comme dit Frege et beaucoup et la vérité et le faux logique qui ne sont pas le vrai, la vérité constative, empirique, des énoncés apophantiques qui peuvent être vrais, qui peuvent être faux, hein. Ce livre a une couverture rouge, ça peut être vrai, hein. Celui-là, il fait dire à notre handicap couverture rouge, il fait dire oui, et celui-là, il fait dire non. Bon, ça, c'est la vérité apophantique constative. Et il y a quelque chose qui est modal, qui s'appelle la vérité nécessaire. Frege, il a passé sa vie à essayer d'expliquer ça à ses contemporains. Il a essayé surtout de l'expliquer à Russell. Ça se lit dans la correspondance de Frege avec Russell. C'est très amusant parce que Russell lui répond « Je comprends pas. » Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, voyez, l'anglais ne comprend pas. Un anglais, alors un américain, c'est pire encore, il ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, comme on est tous devenus américains, c'est le rêve de l'Europe, donc on est vraiment mal barré côté de ce que Frege voulait nous expliquer à propos de la vérité. Et Lacan, c'est quelqu'un de génial, parce que Frege il est parti avec ça pour critiquer, discuter. La thèse de Kant selon laquelle les mathématiques seraient la science des énoncés synthétiques a priori. Et donc la critique de la raison pure c'est l'interrogation de Kant à propos de cet énoncé. Comment se fait-il qu'il existe des énoncés synthétiques a priori? Vous pouvez dire, il y a tout un livre de guerre là-dessus qui commente la critique autour de cet énoncé. Comment se fait-il que, et c'est un énoncé qui est dans la critique de la raison pure, hein. Tout de suite il l'oppose à Hume, mais enfin, comment se fait-il qu'il y ait des énoncés synthétiques a priori? C'est parce que Kant il croyait encore que pour apprendre à compter il faut prendre des bâtons. Vous voyez? Et que si je prends trois craies, deux créés plus une créée, ça fait trois créés. Comment se fait-il que ce soit quelque chose de synthétique, c'est-à-dire que ce n'est pas contenu apparemment dans le concept, hein, il faut prendre des créés, il faut prendre des bâtons, il faut rajouter quelque chose de phénoménal, et puis c'est pourtant quelque chose qui va donner une petite opération mathématique, 2 plus 1 égale 3, et ça devient a priori, ça a l'air de s'imposer à tout le monde. Ah. Et dans toutes les langues. Alors, que les énoncés analytiques, eux, c'est fastoche, les jugements analytiques, ils disent quelque chose qui est contenu dans les termes de la définition de ce dont il s'agit. Okay. Et bien, dans la définition du faux et du vrai logique, c'est une conséquence nécessaire, donc analytique, qui se produit à la lettre du fait de l'écrire, qu'il y a une aliénation entre le faux et le vrai. Et ça donne ce que tous les logiciens, c'est extraordinaire comme les logiciens sont nuls, ils appellent ça le paradoxe de l'implication matérielle. Vous voyez, parce qu'ils ne font pas la différence entre les énoncés analytiques comme le faux et le vrai logique, le vrai et le faux logique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tautologie et l'antilogie, et la différence avec les énoncés constatifs, comme la couverture de ce livre est rouge, ou il pleut, en ce moment à Paris il fait nuit.
La neige est blanche.
Comment ?
La neige est blanche.
Oui, la neige est blanche, c'est aussi constatif. Donc, on a tendance à ne pas faire cette distinction, et Frege, lui, il s'est battu toute sa vie avec ça, il était dans un état de passion, mais il était pas fou. Il n'en a pas encore été remonté, là, les psys ne sont pas allés remonter encore les abrutis de la psychanalyse jusqu'à Frege. Ils n'ont pas encore dit que Frege était psychotique, ils ont déjà dit Cantor, Turing, et Godel sont psychotiques maintenant. Ça augmente, hein. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était seulement Cantor. Maintenant, il y a même des livres de psy comme ça qui font des études sur des étudiants en Cagne. C'est pas Cagne, ça s'appelle comment vous voulez, Mathieu ?
Taupe.
Taupe, voilà, en taupe et en hypotaupe, qui sont soi-disant psychotiques. C'est évident. J'ai lu un livre récemment de Vidal qui a publié ça avec l'appui d'une préface d'un fameux sur deux étudiants qui sont psychotiques. Bon, parce que si vous faites des maths, vous êtes psychotiques. Faites attention. Ici, vous risquez d'attraper. Si c'est contagieux, oui, c'est comme la grippe, ça peut vous risquer d'attraper la psychose, de sauter dessus. Bon. Alors, Frege, lui, il avait tous les signes pour ces gens qui n'ont pas de critères cliniques, ça va. La psychose, ils confondent la psychose avec des fous obsessionnels ou des hystériques fous. De toute façon, comme ils n'ont pas la catégorie de la différence entre fous et non-fous, ils ne peuvent pas avoir la clé. Tous les fous, tout ce qui est fou leur paraît grave. Ils ont raison parce que c'est grave. Mais ce n'est pas pour autant être psychotique. Moi, j'ai connu des psychotiques non-fous. Enfin, j'en connais plein. Il y en a sûrement énormément, puisque nous sommes dans une civilisation dominée par un discours qui conduit à cette position subjective de la psychose. Donc on va préciser. La psychose, c'est le refus de lire et le refus même de la lisibilité. C'est le rejet. Hein. Il faut que tout soit écrit pour lire. Si tout n'est pas écrit, c'est ça la conclusion. Sa conséquence, c'est ça. Si tout n'est pas écrit, on ne peut pas lire, il faut que tout soit écrit. Il n'y a pas d'appréciation de la clientèle. Le service doit être compris. Vous voyez pourquoi on est dans une civilisation. Il n'y a plus de marchandage possible. On laisse ça pour c'est caduque, c'est obsolète, c'est fort flou. C'est pour les sauvages, c'est pour les Arabes, si vous allez en Médina de Tunis, ou pour les. Je ne sais pas dans quel pays vous allez aller négocier le prix d'un chapeau ou d'un poncho. En Amérique du Sud, ou en Alaska. Là, vous avez des gens qui sont des sauvages, par exemple, parce que c'est bon pour eux qu'il y ait une négociation possible. Pour nous, il n'y a plus de négociation possible, il n'y a pas d'appréciation de la clientèle. Le service est compris, on va prélever votre impôt à la source, comme ça vous n'aurez plus de déclaration à faire. Parce que tous les endroits où on peut tricher, c'est considéré comme nocif pour le psychologue. Hein? Puis ça va loin, ça va jusqu'aux homosexuels, comme la version Freud. On ne sait pas s'ils sont ou pas, quoi. Voilà, déjà, homosexuels ou pas. On ne dit pas quelle est la théorie de Hitler sur les homosexuels. Considèrent que sont des hommes, des femmes. Mais il y a des gens qui croient qu'il n'y a que deux sexes.
Oui, il était attiré.
Je ne sais pas, il avait un gros chien allemand, un beau berger allemand. Il a été marié. Non, il
avait pas marié.
Non, non, il ne faut pas accuser les gens simplement. C'est plus compliqué que ça, la psychose. Ça peut cohabiter très très bien, même avec le conjugal. Mais n'empêche qu'on ne supporte pas les psychotiques. Les psychotiques ne supportent pas les homosexuels. Ça, Freud, c'est sa théorie. Parce que ce n'est pas écrit dessus, sur le front, là. Il n'y a pas marqué homo ou hétéro. C'est pas, enfin, on est, vous n'êtes pas encore obligé de porter un tatouage. Mais vous avez des juifs, c'est pareil. On ne sait pas les reconnaître comme ça. Puisque c'est la cause de la diaspora, ils sont partout. Alors, les mecs, ils sont là en train de chercher, savoir qui il est et qui il n'est pas. Et on a fini par les tatouer avec des numéros. Des numéros ordinaux, pas des nombres cardinaux. Parce que le nombre cardinal, c'est un nombre sympa, le nombre cardinal. Le nombre cardinal, c'est le nombre que vous rencontrez. 3, pof, 7. Vous n'avez pas besoin de compter. Parce que le nombre ordinal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est la différence qu'il y a entre rencontrer Jules au coin de la rue, quand vous êtes dans le quartier, parce que vous connaissez Jules. Vous savez qu'il s'appelle Jules, vous savez même plus pourquoi, mais vous avez entendu parler de lui au bistrot, et puis on vous a dit, il y a un mec, là, il est un peu curieux, il s'appelle Jules. Ah. Ben, quand vous le rencontrez, vous savez que c'est lui. Ou bien, alors en plus, si on lui donne un sobriquet. Les sobriquets, c'est des noms qui ne sont pas des... C'est pas la même chose qu'un numéro de l'INSEE. Que l'ordinal, c'est un numéro de Lyon, c'est le premier, le deuxième, le troisième qui est né. Voilà, on vous donne un numéro. Les flics, ils ne savent pas reconnaître Jules, sauf s'ils font la police de proximité. Mais sinon, ils vous demandent vos papiers avec votre numéro. Dans l'administration, on préfère l'ordinal, pas le cardinal. Bon, tout ça, c'est des questions qui concernent la psychose, vous voyez. Parce que la psychose, c'est savoir lire même quand c'est pas écrit. C'est pour ça que les juifs, non seulement on les reconnaît pas, mais en plus ils ont une écriture sans voyelle, un alphabet sans voyelle. Quelle honte! Vous vous rendez compte, ils arrivent à lire. Le mouvement de la phrase leur fait deviner qu'est-ce que c'est que les voyelles qu'il faut mettre là, et puis après tout, on peut aussi en mettre d'autres. D'où multitude des interprétations. C'est ça la lecture. La lecture, ça nécessite. Eh bien, le psychotique, il déteste ça. Alors, nous, ici, on se pose la question de savoir, justement, qu'est-ce que c'est qu'écrire, vous voyez ? Comment de la géométrie... À mon avis, la géométrie, c'est déjà une écriture assez proche du trait unaire. Assez proche de ce que dans la psychanalyse, Freud a appelé un Zigerzo. C'est-à-dire le fait de savoir lire et de piquer un trait distinctif pour s'identifier à un cousin ou... de la famille plus proche, même, pour s'identifier. Le trait unaire, c'est de l'ordre de la caricature. C'est-à-dire la géométrie, par le dessin, c'est de l'ordre de la caricature, c'est de l'ordre du crobard. Puis ça, c'est déjà un diagramme de l'Hervène. Quelle est la différence qu'il y a entre ça et ça? C'est qu'ici, dans chaque figure, vous avez un certain nombre de zones qui sont colorées ou non colorées. Ici, dans cette étape, les deux disques, vous avez 5 zones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zones dont 2 sont colorées. Une en vert, l'autre en rouge et les autres non. Donc on va dire que A, c'est un trou dans le disque vert et A' un trou dans le disque A. Et il y a 5 zones. Ici, si on compte les zones, quand on a rapproché les deux disques, s'ils se superposent dans la zone d'intersection, ici, en bêta, il y a une zone de plus qui est apparue. Distingue des autres zones. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 zones. Ici, On doit en avoir 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, on en a 2 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, ici, j'en ai 7. Et ici, il y en a 7. Et puis, il y en a une de plus au-dessus. Ça fait 8. Mais il y en a 2 qui sont peintes en bleu. Bon. Et puis là, il y a 3 zones. 1, 2, 3. Bon. Ici, j'ai dit, il y en avait 5. Je ne me trompe pas, vous avez vérifié.
Je ne comprends pas tout le monde. Je ne comprends pas tout le monde.
1, 2, 3, pour Veta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est
6, c'est tout.
C'est 6.
C'est le tableau en bleu.
C'est parce que j'ai compté deux fois l'extérieur.
Oui, le bout à 7.
L'extérieur, c'est le trou auquel on ne pense pas parce qu'on est dedans. Vous voyez, il a quelque chose à voir avec le trauma. Quand vous êtes petit, quand vous entendez les parents s'engueuler ou faire l'amour, c'est là que vous vous trouvez dans le trou. Dans ce trou-là. C'est dans ce trou, c'est le trou que Lacan appelle le trou réel. C'est le plus réel des trous. Donc je me suis fait encore piéger par le trou du réel. Mais ça arrive, c'est ça. Faire de la topologie, c'est étudier bêtement et simplement ces choses que les autres font toute une choucroute religieuse, théologique ou métaphysique. C'est pas, ça ne veut pas dire que les grands textes métaphysiques ne sont pas intéressants, mais les grands textes, vous voyez, pas toute la choucroute qu'on fait avec. Hein, c'est comme la psychanalyse. Ce qui est intéressant, c'est le texte de Freud et de Lacan. Quelques autres qui sont un peu intéressants, mais pas beaucoup. Et puis, toute la choucroute que font les psychologues, les psychologistes, comment ils appellent ça, psychothérapeutes, oui. Pareil que la psychanalyse, ce serait une formation pour psychothérapeutes. Il y a de quoi rire. Enfin, je comprends pas. C'est une plaisanterie qu'il faudrait que les psychothérapeutes. Parce que les psychothérapeutes, c'est les gens qui doivent. Vous avez vu les décrets d'application, il faut qu'ils connaissent. Les résultats de la neurologie, bonne chance. Les neurologues, ils vont être contents d'avoir affaire à tous ces emmerdeurs qui vont dire des conneries sur la neurologie. Bon. Ensuite, il faut qu'ils sachent aussi pas bien ce que c'est que la. Alors, on ne dit pas la psychanalyse, on dit la psychologie clinique. Bon,